journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le JDA, nous parlons du rôle des tirailleurs africains durant la Grande Guerre. Hier, les présidents français et maliens ont inauguré une statue en hommage aux tirailleurs à Reims, construite une première fois en 1924. Ce monument avait été détruit par les Allemands en 1940. Alors cette inauguration a été l'occasion de rappeler le rôle décisif de ces combattants venus des territoires colonisés et qui représentaient parfois jusqu'à 45% des contingents. Alors que pensez-vous de cette reconnaissance tardive? La France a-t-elle une dette de sang envers les pays dont étaient issus ces combattants? Pour en parler, nous serons en ligne depuis la Martinique avec l'anthropologue et historien Yaya Si. Pour intervenir, vous exprimer sur le sujet, composez dès maintenant le numéro du standard, c'est le 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. Avant cela, on se tourne vers le répondeur pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour. Sa Majesté Paul Biya Ier a été intronisé hier mardi 6 novembre, sans que cela ne fasse la désapprobation de quelque manière que ce soit, notamment de ces révolutionnaires de pacotille et autres africains qui interfèrent dans le pays des autres pour parler de la politique des autres pays, alors qu'ils n'arrivent pas à balayer devant leur propre maison. Et en ce sens, je m'adresse à ces soi-disant écrivains plagieurs, notamment la calife Beyala, Charles Onana, parce que ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train d'interférer dans la politique des autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, où ils se font l'avocat du diable, de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé, et même de Kadhafi et de Sankara, alors que leur propre pays a été mis en couple réglé sans qu'ils ne trouvent rien à lui dire. À ces gens-là, nous leur disons à partir d'aujourd'hui, puisque vous ne pouvez pas parler dans la politique de votre pays, le Cameroun, à l'Africain, à la petite noix, à la petite semaine, nous vous demandons de fermer votre bouche sur les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Merci et bonne journée, amis du GIA. Du JDA.
Amis auditeurs d'Africa numéro 1, bonjour. Pendant l'investiture de M. Paul Biya, hier mardi 6 novembre, nous avons assisté à un folklore, une fois de plus, un certain sénateur au nom de M. Mbamba qui a osé se lever et chanter Paul Biya, Ayop, Ayop, qui veut dire, pour ceux qui comprennent peut-être, Paul Biya, en haut, en haut. Voilà le pourquoi nous assistons toujours au déclin de ce pays. Comment peut-on laisser ce genre de choses-là? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'attendons plus rien de ces gens-là. Seule la mort viendra nous délivrer de ce roi qui nous gouverne depuis plus de 36 ans. Merci et au revoir.
Oui, Judéa, bonjour. C'est bien à l'appareil. Je m'adresse à mon frère Idriss. Mon frère Idriss, voyez-vous, avec, n'est-ce pas, ce genre d'arguments, nous n'allons pas aller vers une réconciliation et vers un apaisement. Voyez-vous, on ne va pas aller vers un apaisement. Avec ce genre d'accusations, le FPI doit demander pardon à la nation ivoirienne parce que ce parti, ils ont détruit le corps de la maman d'Alassane Ouattara qui a été traîné ici de centaines de mètres. Sinon, ce parti doit demander pardon. Pour faire croire à l'opinion nationale que Laurent Gbagbo a détruit le corps de la mère. Mais franchement, Idriss, mais est-ce que tu veux la paix dans ce pays? Ce n'est pas la vérité. Voici la vérité, Idriss. La mère de Ouattara, elle est décédée en 2005, je crois bien. Et c'était en novembre, 30 novembre exactement. Et le 7 novembre, des individus sont allés, n'est-ce pas, comme ça s'est fait en Afrique, hein, parce que Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui. Pour eux, c'était roi. Donc, dans le caveau, n'est-ce pas, dans la tombe de sa mère, il doit avoir de l'or, etc. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Ils sont allés profaner, c'était deux individus d'ailleurs, c'était deux, ils sont allés profaner, n'est-ce pas, avec des armes, hein. Ils ont maîtrisé les gardiens, ils sont allés profaner le corps de la pauvre dame. Et ils ont été surpris par des passants. Ils ont fui. Et quand le président Gbagbo a pris cela, cher Idriss, il a envoyé l'armée tissue sur les lieux pour cadrer, n'est-ce pas, le tombeau de la pauvre dame. Et lui, encore, M. Gbagbo s'est rendu sur place. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Bonjour, Madame Stéphanie. C'est Monsieur Gilbert de la région parisienne. Le lundi 5 novembre, j'avais lancé un cri d'alarme en posant une question à Monseigneur Moussa Ngopa-Signan. Quel est l'héritage qu'il compte laisser au peuple congolais? Aujourd'hui, je lance un cri d'alarme aux politiciens congolais. Mes frères, arrêtez de vous moquer du peuple congolais. Aujourd'hui, je viens d'apprendre par le canal d'Afrique numéro 1 qu'un groupe d'individus s'improvise opposant et se réunissent à Kinshasa pour désigner un candidat unique de l'opposition. Aussi longtemps que les opposants connus se réunissent à Genève pour désigner un candidat unique. Vous continuez à distraire le peuple pour vos intérêts personnels, en ignorant sa souffrance. Continuez à faire la politique du ventre, mais un jour vous le payerez cher. Je me répète encore aujourd'hui, que Monseigneur Moussengo prenne ses responsabilités pour léguer au peuple l'alternance digne de son nom. Toutes ces réunions cachent la tricherie et la corruption que le pouvoir veut imposer à la République. Continuez à amasser de richesses pour les cacher dans le paradis fiscaux et abandonner le peuple à leur propre sort. Mobutu a amassé l'argent pendant 32 ans et il est parti comme un clochard. L'histoire nous donnera raison. Merci, je vous remercie.
Oui, bonjour, c'est Africa numéro 1. Je vous téléphonais aujourd'hui, les cérémonies que le monsieur Ibrahim Boubacar Keïta il est venu pour l'inauguration du mémorial de les anciens soldats qui sont tombés en France ici, 14-18 ans. Moi, j'ai mon grand-père là-dedans, il n'a pas bénéficié, il n'y a rien du tout. Au plus aussi, monument, ça donne quoi pour nous les Africains? Voilà, merci. Ciao.
Oui, bonjour, la sœur Atman, bonjour tous les animateurs de l'Africa numéro 1. Et je voudrais poser toujours deux questions concernant l'émission d'aujourd'hui, des anciens combattants de la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Des anciens combattants africains. Moi, je reviens toujours là-dessus pour vous dire que moi, personnellement, je ne suis pas content. Pourquoi on continue à appeler les Africains des tirailleurs? Pourquoi on continue à appeler les anciens combattants des tirailleurs sénégalais, les deux sujets? Tirailleurs, ce sont des gens qui sont venus vraiment, qui n'ont même pas tué un ennemi, c'est-à-dire ils tiraient en l'air comme ça ailleurs. Et on continue de génération en génération, même les historiens. Et puis encore, tirailleurs sénégalais. J'avais déjà soulevé ce sujet, la sœur Atman. Pourquoi sénégalais? C'était tous les Africains. Il y a eu des Malgaches, il y a eu des Camerounais, il y a eu des Congolais de Brazzaville, il y a eu des Gabonais, des Tchadiens, des Algériens, tout le monde. Mais pourquoi on appelle les tirailleurs sénégalais? Voilà. Je vous remercie. Merci. Au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en nous appelant au 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Aujourd'hui dans le JDA, nous parlons du rôle des tirailleurs africains durant la Grande Guerre. Hier, les présidents français et maliens ont inauguré une statue en hommage aux tirailleurs africains à Reims. Cette statue avait d'abord été construite une première fois en 1924, puis détruite par les Allemands en 1940, qui ne supportaient pas cet hommage à la force noire. Cette inauguration a été l'occasion de rappeler le rôle décisif de ces combattants venus des territoires colonisés qui représentaient parfois jusqu'à 45% des contingents. Alors que pensez-vous de cette reconnaissance? La France a-t-elle une dette de sang envers les pays dont étaient issus ces combattants? Nous en parlons sans plus tarder avec notre invité Gayassi. Bonjour.
Bonjour.
Merci, vous êtes avec nous par téléphone depuis la Martinique. Vous êtes anthropologue et historien. Première question, Gayassi, revenons sur ce que disait l'auditeur à l'instant sur le répondeur. Il s'insurgeait contre l'appellation tirailleur et tirailleur sénégalais. Ma première question est celle-ci. Est-ce que cette expression de tirailleur sénégalais est péjorative?
Oui, le mot tirailleur, depuis sous Napoléon qu'on embauchait des Suisses dans l'armée française et puis on les mettait à la tête des armées. On disait qu'ils tiraient un peu ailleurs parce qu'ils ne comprenaient pas trop les ordres du commandement général. Donc, dès que la bataille s'enclenchait, ils tiraient jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, le mot tirailleur, en fait, vient de là. Mais c'est un peu péjoratif dans la mesure où... ils sont pas considérés comme des gens bien formés, ils ne comprennent pas bien les ordres du commandement. Donc, il faut donc qu'on revienne au début de l'appellation même en France. On les appelait les troupes indigènes d'infanterie de marine. Quand Fédèbre les a créées le 21 juillet 1857 par le décret de Plombière Lébert.
D'accord.
On les appelait donc troupes indigènes d'infanterie de marine. C'est après que le mot tirailleur, c'est greffé dessus parce qu'en Algérie, on a créé les tirailleurs d'Afrique, on a créé les tirailleurs indigènes. Après, on a créé.
Donc vous êtes favorable à ce que disait notre auditeur, finalement, Yayassi, est-ce qu'on peut se passer de l'appellation tirailleur et se contenter de celle de combattant ou d'ancien combattant?
Non, ça ne correspondrait pas à la réalité historique.
C'est très clair.
La réalité historique, c'est qu'ils ont, pour tous les combattants qui sont venus d'Afrique noire, on les a appelés les tirailleurs sénégalais. Les Algériens, on les appelait les tirailleurs algériens. Les Marocains, les tirailleurs marocains. Il y avait donc 182 000 tirailleurs sénégalais qui sont venus de toutes les colonies d'Afrique noire, et de Madagascar, de Djibouti, et on les appelait tous pratiquement tirailleurs sénégalais. Mais ils n'étaient pas mélangés avec les tirailleurs algériens, qui eux-mêmes n'étaient pas mélangés aux Marocains et aux Tunisiens.
C'est très clair.
Donc il y avait 170 000 Algériens, 100 000 Marocains et Tunisiens, et 182 000 Africains.
Alors justement, Yayassi, je crois savoir que votre oncle, Sama Nessi, a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Quel témoignage vous a-t-il transmis?
C'est-à-dire que la plupart des anciens combattants ne parlaient pas en fait de la guerre, tant qu'on ne les demandait pas. Et nous, on était adolescents, dans les villages, on les a vus, on les a vus vivre dans les villages. La plupart d'entre eux étaient des gens qui ont changé beaucoup de choses dans les villages puisqu'ils n'avaient plus peur de rien. Ils disaient ce qu'ils pensaient et tout ce que les autres pensaient, eux, ils le disaient très haut. Mais mon oncle, lui, il était un peu discret. Il ne m'a jamais parlé de la guerre 14-18. Par contre, souvent, il parlait de ses amis qui sont tombés à Verdun.
Ouais. Effectivement, Verdun, on parlerait un peu plus tard du chemin des dames aussi.
J'étais très jeune à l'époque, je ne lui ai pas demandé. Il est mort en 85, j'avais déjà quitté le Sénégal. Moi, j'ai quitté le Sénégal, j'étais en France depuis 1968. Donc, je n'ai pas eu l'occasion, après ma formation, de lui demander vraiment les tenants et les aboutissants de la guerre.
Mais je voulais vous poser cette question avant d'écouter les auditeurs Yayassi, et puis on a une pensée aussi pour votre oncle Sama Nessi et tous les autres d'ailleurs à qui on rend hommage aussi avec cette émission. Vous avez, j'imagine, suivi l'inauguration de cette statue à Reims. Est-ce qu'avec cette inauguration, la France répare un peu son oubli et son manque de reconnaissance envers les tirailleurs selon vous?
C'est-à-dire toutes les choses, je pense, se font à petits pas. Monsieur Macron a fait, le président de la République a fait un pas en avant déjà à Alger quand il a reconnu que la colonisation est un crime. Mais la situation n'est pas mûre en France pour avancer de tels propos. Il faut le dire franchement. Mais par contre, l'inauguration de la statue à Reims est un petit pas vers la reconnaissance. Mais je crois qu'il faut cette reconnaissance doit être articulée à deux choses. À la génération qui vit en France, des Africains, pour qu'ils se reconnaissent dans cette histoire, et aux Africains d'Afrique aussi, pour qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé pendant cette guerre-là. Mais je crois que ce qui est spécifique dans la guerre, dans la Grande Guerre, c'est que les anciens combattants qui ont été incorporés dans l'armée entre 1914 et 1918, jusqu'à mars 1918, je voudrais vraiment dire un mot à leur propos, si le temps me le permet.
On vous écoute.
Alors,
rapidement peut-être.
Avant le déclenchement des hostilités, on hésitait beaucoup à amener des Africains sur le territoire européen, soit disant que ils vont s'implanter, ils vont se marier et faire des enfants en France. Mais dès que la guerre a été déclarée le 28 juin, dès qu'à Sarajevo, il y a eu l'événement le 28 juin, On a compris que ça allait déboucher sur des choses pas très catholiques avec les alliances qui se sont déclenchées dès le mois de juillet. Donc, le déclenchement des alliances a fait peur aux Français qui ont dit « Bon, maintenant, il faut qu'on occupe des Africains, qu'on les amène massivement chez nous. » Alors, ça a créé donc une pression sur les populations africaines. On a recruté beaucoup de jeunes dans les villages par l'intermédiaire des chefs de canton qui sont implantés par l'administration et les chefs de village qui sont aussi sous le contrôle des chefs de canton. Donc, dans les villages, on allait dans les chambres où les jeunes dormaient et on faisait des rafles.
Alors, c'est-à-dire que ce n'était pas un recrutement toujours volontaire, on est bien d'accord, Yayassi?
Non. Je vous dis, de 1914 à 1918, avant l'arrivée de Blaise Diagne, il n'y avait que dans les quatre communes du Sénégal, on recrutait, mais c'était vraiment à peu près le même schéma. Hein.
On va y revenir dans quelques instants, Yayassi, parce que j'ai mon chronomètre qui affiche seulement 14 minutes et les auditeurs vont vouloir s'exprimer aussi sur cette question des tirailleurs. On va se diriger justement en Afrique, à Conakry, retrouver Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, Abdoulaye. Quel regard portez-vous sur cet hommage aux combattants africains?
Moi, le regard que je porte sur les combattants africains en général, tes regards qui tournent vers la justice. Mmh. Si je prends par exemple l'inauguration de ce statut, j'ai dit que ça, c'est pas suffisant. Parce que il faut que cette reconnaissance passe aussi par la justice. Parce que ce qui s'est passé au camp de Tcharoï à Dakar, après que les combattants africains ont aidé la France à se libérer jusqu'à la victoire, ils ne méritaient pas ce sort. Et je pense aussi que si on prend encore sur le plan du salaire, il existe une différence entre le combattant français et le combattant africain. Il y a une discrimination salariale. Je pense que la France pourrait faire du mieux en procédant à la réparation et en dédommageant, même si certains combattants ne sont pas en vie. Je pense que leurs fils ou bien, disons, leur famille sont en vie. La France devrait procéder à la réparation et indemniser ses familles.
Et même les descendants, on a bien compris, Abdoulaye, hein, qui est en faveur de réparation concrète envers ces combattants. Restez encore à l'écoute, Yayassi, on va écouter Guy. Guy, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Guy.
Bonjour.
Vous vouliez vous poser la question de l'histoire, de la mémoire et des œuvres d'art autour de ces combattants, plutôt d'un film, c'est ça?
Entre autres, on va dire, mais ce que je veux savoir, c'était plutôt c'est qui a organisé, où le président Macron a été avec le président malien. Pourquoi un seul président? Parce qu'on dit les tirailleurs, enfin ils appellent les tirailleurs, ce sont les combattants de différents pays. Pourquoi un seul président et pas les autres?
Voilà, bonne question. Allez-y.
C'est une question qu'on peut se poser parce que le Mali ne représente pas à lui seul toutes ces nations qui ont vu partir leur fils, les pères.
Il faut savoir, je crois, Guy, que la réplique exacte de cette statue existe à Bamako. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
Oui, mais bon, encore une fois, je ne suis pas pessimiste, mais encore une fois, enfin défaitiste en plus, mais encore une fois, pour moi, c'est encore quelque chose qui est fait pour dire, voilà, on ne vous oublie pas, mais bon, voilà ce qu'on fait pour vous, et puis on s'arrête là.
Pour vous, ce n'est pas suffisant. Guy, Macron a parlé d'une dette de sang envers les Africains, justifiant ainsi le déploiement de l'armée française au Sahel. Qu'en pensez-vous?
Ben, pour moi, c'est encore... Encore une bêtise bien chiffonnée, une dette de sang. Oui, avant qu'il arrive, c'était déjà comme ça. Et quand il va partir, ce sera la même chose. En fait, nous, on doit comprendre, nous, Africains, on doit comprendre que pour que l'hommage nous soit rendu et que les choses soient faites comme il faut, c'est à nous-mêmes de nous lever, comme disait votre invité. Il est important, par exemple, que les personnes comme les personnalités connues comme Omar Sy, par exemple, puissent user de leur notoriété pour pouvoir faire rappeler cette histoire-là. Vous voyez, par exemple, Jamel Debbouze, qu'on a connu aussi comme étant un
humoriste.
Et un humoriste, il a étonné tout le monde en faisant ce film qui relate l'histoire des combattants algériens, marocains, qui se sont retrouvés dans une guerre où ils n'ont rien demandé, vous voyez. Et cela, qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire.
Alors c'est intéressant, Guy, je vous remercie, Guy, votre référence aux artistes, parce qu'on se souvient quand même, il y a quelques temps, pas si récemment que ça, le chanteur Black M devait aller chanter à Verdun. Donc vous voyez, il y avait quand même un engagement de la part de cet artiste, et finalement, on lui a interdit. Merci, Guy, de votre participation. On écoute un dernier auditeur avant de rejoindre notre invité, Diomo de Beng. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs. Moi, j'aimerais aujourd'hui me prononcer sur ça pour dire que, comme l'invité vient de dire et que le précédent auditeur vient de le souligner, moi, je crois que c'est un très bon pas. Mais le gros pas reste à faire au niveau de nos chefs d'État, de nos gouvernements. Regardez un tout petit peu dans la composition des gouvernements africains. Stéphanie, je vous jure qu'en Côte d'Ivoire, ça existait, mais je ne sais plus si ça existe. C'était un ministère chargé de l'armée et des anciens combattants. Dans des pays, ça n'existe plus. Donc déjà, à nous de nous battre, comme le dit, en réinstaurant ces ministères-là, qui enfin puissent recueillir, je dis bien recueillir, pour encore des anciens combattants qui vivent, parce que moi, mon père, il a fait la guerre 18-45 et tout ça, père à son âme, il est mort.
14-18 ou 39-40, mais pas 18-45.
39-40, excusez-moi. Il a fait cette guerre. Mais il est parti sans indemnité au niveau de la France. Il n'a pas eu de reconnaissance et tout ça. Mais moi, j'aimerais que ce gouvernement mette dans leur ministère le ministère chargé des anciens combattants. Et ensemble, je dis bien ensemble, s'il y a presque tous les pays qui ont cette idée-là, et ensemble, ils lutteront et ils feront porter la voix de ces sans-voix-là. Aujourd'hui, il y avait un décret français qui disait qu'à 60 ans, l'ancien combattant qui n'était pas mort avant 60 ans devrait bénéficier de la retraite pension militaire. Moi, je m'en fous du montant. Mais arrivé à un moment donné, ils l'ont supprimé carrément et ils ont créé un autre décret. Mais pourquoi? Parce que si nos chefs d'État sont obligés de venir faire des mémorials ici, aller pleurer sur des tombes déjà finies, je crois que les présidents français ne nous prendront pas au sérieux.
C'est très clair.
Je vous l'ai dit, il faudrait que chacun à notre niveau, quel que soit le montant, moi je m'en fous, mais il faudrait qu'il ait une reconnaissance.
Il faut revendiquer, vous nous dites, Diomo de Beng, vous dites qu'il faut revendiquer finalement, et c'est aussi aux dirigeants en Afrique de faire ce travail de lobbying. Je vous signale quand même, Diomo de Beng, qu'au Sénégal, hein, on commémore la mémoire des tirailleurs. Yaya Sy, je reviens vers vous. Beaucoup de choses ont été dites par nos auditeurs, des choses très intéressantes. D'ailleurs, la première est celle-ci. On a pensé aux combattants tombés à Verdun sur le chemin des dames, hein, l'une des batailles les plus sanglantes. Hein, mais on peut aussi en rendre hommage, comme l'a fait notre auditeur, aux soldats morts à Tiaroy, tués parce qu'ils revendiquaient leur solde. Quel geste fort faudrait-il pour que la France répare cette injustice, Yaya Sy?
Je crois que bon, déjà il y a deux problèmes qu'il faut séparer. Il y a le problème de la Première Guerre mondiale et le problème de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui les unit, c'est ce qu'on appelle la cristallisation des pensions. Mais c'est-à-dire que la France a pris des mesures unilatérales en bafouant toutes les lois internationales et sa propre loi, puisque le Conseil d'État a condamné la France depuis 1959. La France ne paye pas des pensions équivalentes pour les Français et les
combattants étrangers.
Et puis, c'est d'autant plus scandaleux que ceux qui ont pris l'indépendance de manière forte, comme les pays asiatiques et l'Algérie, ont été sévèrement punis au niveau du niveau de pension.
Ouais.
Et les autres aussi. Ne touche même pas la moitié des pensions. Il n'y a que Djibouti qui touche à peu près la moitié des pensions des Français pour les mêmes services rendus à la nation. Donc la France a été condamnée par l'Union européenne, par les Nations unies, par ses propres juridictions. Mais l'administration française a continué à ne pas payer correctement les pensions des originaires des pays colonisés. Pour les anciens combattants comme mon père, mon oncle Samanessi, eux, ils sont partis. Mais la Deuxième Guerre mondiale, ils ne sont pas terminés encore, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Il y en a encore qui vivent parmi nous.
Et pour vous, il serait important que la France fasse des gestes financiers envers cela ?
Ben, la dette financière, déjà, puisque les pensions sont toujours cristallisées. Hein. Mais en 2001, on a fait une loi de décristallisation, mais en réalité, les pensions ne sont indexées sur rien. Oui. Ils touchent les mêmes pensions, moindres que les Français, et donc cette injustice existe toujours. Mm. Donc les auditeurs qui ont appelé pour ça, ils ont raison. Oui. Moi, je pense qu'ils ont raison. La décristallisation n'a pas été une réalité. Par rapport à la dette du sang, je pense qu'il y a eu 30 000 morts dans la Première Guerre mondiale, sans compter beaucoup plus en invalides. Dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un peu plus courte au niveau des combats, en tout cas entre militaires, il y a eu 24 000 morts quand même, avec beaucoup de soldats qui sont venus se battre en France. Donc, il y a une dette du sang, mais au-delà...
Est-ce que ça justifie le déploiement de l'armée française au Sahel, Yaya Si, selon vous ?
Ben, pour faire le lien entre le déploiement de l'armée française au Sahel et les deux guerres mondiales, c'est un peu plus compliqué, parce que on est dans l'actualité, les Africains n'ont pas une armée commune, maintenant, on les pousse à s'organiser en armée entre 5 pays, alors que l'Europe elle-même n'arrive pas à organiser une armée. Je pense qu'il y a un problème technique vraiment qui n'est pas résolu. Mais en même temps, il faut que les Africains se mettent debout pour endiguer l'islamisme rampant qui ne respecte même pas les règles de l'islam. Si ceux qui connaissent bien le Coran savent que ces gens-là sont hors de l'islam. Mais en même temps, il faut que les Africains n'étant pas capables de s'unir pour avoir une armée, eh bien,
ça justifie le déploiement de Barkhane.
Il s'agit de négocier un à un avec la France et puis les autres pays du monde. Donc c'est aux Africains. Moi, je pense que ce sont les Africains eux-mêmes qui sont à la base de cet échec. Et ça va. Je pense que la balkanisation va continuer. Et je ne sais pas si ça arrange les puissances étrangères, cette balkanisation. Mais ça n'arrange pas les peuples africains.
Ça, c'est très clair. Yaya Si, j'ai une dernière question rapide. Elle est un peu longue. Vous avez écrit un essai sur les tirailleurs. Et en introduction, vous écrivez ceci. Tous ces Africains sont-ils morts pour la bonne ou mauvaise cause ? En un mot, hormis les résistants à l'enrôlement au Bélédougou au printemps 1915 et à Bona à partir d'octobre 1915, les raisons de la mort violente aux combattants de tous les tirailleurs eux-mêmes concernaient-elles ces derniers ? Je vous retourne la question en guise de conclusion, Yaya Si. Est-ce que ces combattants sont morts pour la bonne ou pour la mauvaise cause, selon vous ?
C'est-à-dire qu'on les a pris dans leur village sans demander leur avis, leur consentement. Ils ont été prélevés de force et les populations se sont révoltées parce que c'est les forces vives qu'ils ont amenées. En plus, les populations payaient déjà l'impôt per capita qui était interdit en France. C'est-à-dire qu'on prenait leur bétail, on vidait les greniers pour nourrir les soldats. Donc, ces soldats sont partis se battre alors qu'ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Je parle de ceux qui ont été pris entre 1914 et 1910, mars 1918, avant l'arrivée de Blaise-Dagne dans ces contrées-là. Donc, ces gens-là n'ont rien à voir avec cette guerre. Ils ne savent même pas où ils allaient. Et on dit qu'ils sont venus se battre pour libérer la France. Non, je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas venus se battre. On les a pris, on les a amenés en Europe. Et...
Ah, la ligne a coupé, mais je pense que le message est bien passé. Effectivement, la réponse de Yaya Si, en disant que ces tirailleurs ne sont pas venus libérer la France. On les a contraints à venir sur le territoire français, parfois pour des causes qui leur échappaient. On va arriver à la fin de cette émission. On n'a pas le temps de prendre d'autres auditeurs parce qu'il reste qu'une minute. Il y a Ousmane qui nous rappelait à juste raison que le premier président africain à célébrer les tirailleurs, c'est le président Abdoulaye Wade au Sénégal. Yann Alex nous disait « Je trouve que l'allocution de Macron est une belle hypocrisie ». C'est l'allocution d'Emmanuel Macron hier au moment de l'inauguration. Et puis il y a Kabilo Tel Kabilo, un auditeur qui nous dit sur Facebook, nous voulons remercier le président Macron et tous les acteurs qui ont rendu ce geste possible et nous osons espérer que cet acte posé n'est que le commencement d'une série d'actes pour rendre hommage au peuple africain qui a tant souffert pour que la France rayonne aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je remercie Yayassi, historien et anthropologue qui était avec nous par téléphone depuis la Martinique. Merci à tous de votre participation. Continuez le débat sur la page Facebook, facebook.com ou sur le répondeur 01 55 07 58 05. 01 55 07 58 05. Vous pouvez également, grâce au répondeur, vous inscrire à l'émission de demain. Demain, je vous propose de parler du Made in Mali ou comment la consommation locale prend son essor sur le continent. En attendant de vous retrouver demain, prenez soin de vous et de vos proches et des autres à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.